Bonjour à tout le monde. J'aimerais prier avant de commencer. Seigneur, merci pour ce temps d'écoute et ce temps de louange envers toi. Merci parce que tu veux encore nous transmettre un certain nombre de choses ce matin et pendant cette journée. Tu veux encore nous garder, nous permettre d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur. Amen. Amen. À l'église d'Alkirch, cette année, on a une série de prédications tous les mois autour du thème du plan de Dieu. On passe en revue et on éclaire les étapes du plan, des états bibliques du plan de Dieu. Vous êtes familier avec la création, la catastrophe, l'élection, l'exil, la première transformation avec Jésus, la deuxième transformation avec l'Église et le Saint-Esprit, et la nouvelle création. En novembre, on s'est penché sur l'étape de la catastrophe, c'est Genèse. On a pris conscience de l'étendue du péché à travers cette grande catastrophe, dans ce monde abîmé par la catastrophe, à partir de Genèse 3. Étendue du péché, puisque péché à la fois personnel et en même temps systémique. Péché à la fois, dont nous sommes à la fois auteurs et à la fois victimes. Péché bien réel, mais la bonne nouvelle, c'est que ce péché n'est pas éternel. Il a une fin. Le thème que je voudrais aborder aujourd'hui fait un peu écho à cette idée de monde abîmé. Je vous propose de regarder la situation un peu sous un autre angle, et au lieu de commencer par la Genèse, de commencer cette fois par la fin. Mais d'ores et déjà, promis, il y aura des dragons. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas vraiment aborder un thème en lien avec l'Avent, malgré le fait qu'on soit le troisième dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, on va parler des dragons dans la Bible. Surprenant, un peu, pourtant je vous assure qu'ils y sont bien présents. Je vous invite à écouter Apocalypse 12, dans une version traduite par Pierre Prigence, dans son commentaire qui s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean. Et un grand signe apparaît dans le ciel, une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe apparut dans le ciel. Voici, c'était un dragon, rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel, elle les jeta par terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle enfanta un fils, un mâle qui va mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place, pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Et il y eut un combat dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon combattit aussi, lui et ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. On ne trouva plus leur place dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui furent précipités. Et j'entendis une voix forte du ciel qui disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et du pouvoir de son Christ. » Car il a été précipité l'accusateur de mes frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y avez votre demeure. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous dans une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert en son lieu, là où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Et le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau, comme un fleuve, pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint en aide à la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Et le dragon s'irrita contre la femme, et il s'en fut porter le combat contre sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Puis il se posta sur le sable de la mer. Il s'agit d'un récit fantastique, je dirais même à la limite de la fantaisie. On y trouve trois personnages, la femme, le dragon, un enfant qu'on reconnaît comme le Messie. Trois lieux sont identifiés, le ciel, la terre, le désert, et il y a des dizaines de symboles là-dedans. Alors cette prédication ne va pas être une explication de ce texte et de ces symboles, même si j'y reviendrai de temps en temps. Je veux m'attarder, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un des personnages principaux de cette vision, le dragon. On va regarder ensemble les différentes occurrences du dragon dans la Bible pour essayer de percevoir un peu la signification derrière les mots et d'essayer d'en tirer quelques encouragements pour nous aujourd'hui. Alors, en résumé, il y a des dragons, mais Dieu, en Christ, est vainqueur. Ma référence principale pour cette prédication, c'est la série des podcasts de Bible Project. Il y a plus de 21 heures de discussion qui sont prévues autour de ce thème-là. Il arrive à la fin, en cours de diffusion, là maintenant, d'ici la semaine prochaine. Il y a une première vidéo sur le thème qui est sortie le mois dernier en anglais, qui sera probablement traduit assez rapidement en français, pour ceux que ça intéresse d'approfondir un peu le sujet. Alors effectivement, ça peut être étonnant, et on n'y pense pas spontanément, mais il y a effectivement des dragons dans la Bible. Ils ne sont pas toujours aussi bien décrits que celui d'Apocalypse 12, avec ses têtes, ses cornes, ses diadèmes, sa queue, ses objectifs, sa fureur, mais il existe quelques références, en fait. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on note 27 occurrences du mot « dragon » dans l'Ancien Testament en hébreu, et 13 occurrences, principalement dans Apocalypse, en grec dans le Nouveau Testament. En fait, on trouve la présence des dragons dès le tout premier chapitre de la Bible. Au cinquième jour de la création, Genèse 1, verset 21, il est écrit « Dieu créa les grands monstres marins et toutes les espèces d'animaux qui se faufilent et grouillent dans l'eau, de même que toutes les espèces d'oiseaux. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. » Un peu déçu ? On ne dit pas dragon, hein. C'est la traduction Nouvelle Français courant. J'ai été chercher dans les autres. La seconde 21 dit les grands poissons. Parole de vie dit les grands animaux de la mer. La King James en anglais parle de grandes baleines. La version Chouraki dit les grands crocodiles. Le mot hébreu qui est employé, c'est tanine. Tanine, ça va désigner ces grands grands monstres, ces énormes monstres d'abord marins, puis le sens va glisser vers des monstres terrestres et puis ensuite des monstres aériens. On va retrouver ce mot-là dans Jonas. Jonas, il est emmené par le tanin, le grand poisson. Dans les psaumes ou dans Job, dans Ésaïe, c'est Léviathan, le Léviathan, qui est cité, ce grand dragon des mers qui terrorise les marins et qu'on retrouve dans les mythes anciens du Proche-Orient. On en a quelques descriptions dans Job. Étonnamment, un autre champ lexical revient très très vite quand on fait des recherches sur l'idée du dragon. C'est plus tanine, c'est nakash. Un espèce de grand serpent un peu mythologique. Quand on pense à ce nakash, en grec, il a été traduit par dracon, dragon donc, et qui fait référence au regard fixe des reptiles. Il arrive dès Genèse 3, le serpent avec toute sa ruse. Le nakash, moi je suis sûre que vous pouvez me citer plusieurs de ses apparitions plus facilement dans la Bible. On le trouve en Genèse, on le trouve aussi avec Moïse, on le trouve aussi dans Exode, dans Nombre. On le trouve aussi dans le Nouveau Testament, cette fois-ci sous le lexique de Satan, l'adversaire, Diabolos, l'accusateur. Quand il aborde Jésus dans le désert, ou dans notre texte d'Apocalypse 12, au verset 9, on a les quatre mots qui reviennent, le serpent, le Satan, le Diabolos, et le, donc le Nakash, le Satan, le Diabolos, et je n'ai plus, dragon, serpent, diable et Satan, dans le même verset. L'apparition du dragon de l'Apocalypse reste la plus saisissante, la plus littérale dans toutes ces apparitions, même si il ne faut pas en oublier son côté symbolique, bien sûr. Le Tanin et le Nakash, c'est des créatures qui décrivent et qui symbolisent le chaos. Ils évoluent dans des milieux qui symbolisent eux-mêmes le chaos, le non ordonné, l'inquiétant, ce qu'on ne maîtrise pas. Le Tanin, il évolue dans la mer, milieu très peu maîtrisé, très peu maîtrisable. En 2022, les scientifiques estiment que 80% des fonds marins n'ont pas encore été cartographiés et explorés. Alors la non-connaissance laisse place à l'imagination. Quelles sont les créatures qu'on va encore y trouver, qui rôdent, prêtes à surgir? Quant au serpent, pour sa part, c'est un animal du désert qui se cache dans un trou, qui est prêt à surgir pour se défendre ou attaquer sa proie. Le désert, la mer, ainsi que la nuit et l'obscurité sont bibliquement des lieux symboles du chaos. Petite définition du chaos, c'est le désordre, ce qui n'est pas ordonné, ce qui est obscur, confus, inorganisé ou non encore ordonné par Dieu dans son œuvre de création. Dans la tradition judéo-chrétienne, c'est l'inverse de l'ordonné, le non encore ordonné. Le chaos, c'est ce qui bouscule l'ordre, ce qu'on pense établi et organisé. Le chaos en lui-même n'est pas le mal, il n'a pas forcément la volonté de faire le mal, mais c'est un lieu qui est occupé par des créatures qui pourraient être dangereuses. Dans la Bible, on parle du lion, du serpent, des monstres marins, du scorpion. Dans nos vies, le chaos est vite présent. Le chaos, on en connaît tous des micros, au moins des micro-exemples et souvent des macro-exemples. Alors, micro-exemple, le bazar qui s'accumule sur la table de la cuisine, si on n'y prête pas attention. À beaucoup, beaucoup plus grande échelle, un événement géopolitique qui nous ramène à notre terrible impuissance, Gaza, l'Ukraine, la COP28, ou à une échelle de nouveau plus personnelle, quand on nous annonce une chose qui nous retourne le cerveau, qui va nous inquiéter et nous immobiliser, un drame, un décès, l'annonce d'une maladie, quand ça touche son travail. Ces territoires du chaos dans nos vies peuvent revêtir plusieurs formes. Les dragons dans la Bible prennent aussi plusieurs formes selon les écrits où ils sont cités. Quand j'ai dit le mot dragon, je suis persuadée que la plupart d'entre vous ont certainement eu une image en tête. Cette image, elle est parfois floue, parfois positive, parfois négative, parfois curieuse, parfois juste neutre. Le mot dragon, il évoque quelque chose. En fait, le mythe du dragon, il va remonter quasiment à l'origine des civilisations. Et on retrouve ce thème du dragon un peu partout autour du monde. On peut en observer quelques représentations ici, en Chine, en Anatolie, c'est vraiment des représentations très anciennes, les mythes mésopotamiens, en Égypte, au Mexique, en Grèce antique, à Babylone. En fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que les Hébreux, quand on leur parle de dragon, ils ont eux aussi clairement une image en tête. C'est très très clair, ça vient parfois des autres civilisations, mais ils l'ont, cette image-là. Je reste un peu en dehors de la Bible. Le mythe du dragon, en dehors de la Bible, c'est globalement un énorme monstre marin. Parfois il vit dans la mer, parfois il est la mer lui-même, il symbolise la mer lui-même. Ce monstre marin va menacer l'ordre établi, souvent le monde des humains, ou en tout cas le monde de la terre sèche. Là-dessus, il y a un dieu de l'orage qui arrive et qui va combattre ce dragon. Le combat va être long, périlleux, va y avoir du sang, des morts, ça va être terrible. Là, une fois que le dragon est vaincu, le corps du dragon est divisé. Parfois, il forme le ciel et la terre. Ou il sert tout simplement de festin. Le dieu de l'orage qui a vaincu le dragon, il a, en faisant ça, prouvé sa force, il est alors légitimé comme pouvant régner sur l'univers. Globalement, dans les mythes anciens ou dans les figures plus récentes du dragon, on constate que son sens peut varier, une figure parfois clairement violente qu'il faut combattre, qu'il faut terrasser, mais ça peut aussi être une figure un peu plus positive. Je prends juste l'exemple de la Chine. C'est une bête dangereuse, mais qui apporte la chance. Ça, c'est un symbole puissant. L'empereur de Chine est le fils du dragon. Ou tout simplement, le dragon peut être juste une figure sauvage, dangereuse, mais sans qualificatif de bon ou de mauvais. Retour dans notre, dans le monde de la Bible, qui nous habitue à retourner le sens des cultures environnantes pour nous expliquer qui est Dieu et que Dieu est autre. On va quand même voir que quand les auteurs bibliques convoquent le motif du dragon, ils jouent aussi un peu parfois sur la polyvalence du sens. Le dragon biblique, c'est cette créature du chaos, donc qui a quand même souvent cette signification un peu terrible, de créature terrible qui symbolise le chaos. Mais par rapport au mythe voisin, la Bible va nous décrire au départ ces tanins, non pas comme des monstres à abattre, mais juste comme une créature parmi d'autres. Et Dieu dit que c'était bon. Une créature créée comme toutes les autres créatures par la parole bienveillante, pacifique. Pas de combat, c'est Dieu qui est avant, c'est lui qui gère. Je cite encore dans Psaume 104 le mot Léviathan et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Là non plus, pas de violence. Le Léviathan qui est supposé terroriser les marins, c'est simplement une créature qui joue dans les flots. Mais bon, en gros, c'est un grand dauphin, quoi, c'est pas très terrifiant. Et ce tanin qui emporte Jonas, il fait juste la volonté de Dieu, il a aucune volonté propre. Dans le récit, on y a clairement associé l'image pacifique de la baleine. Le Nakash est plus fortement connoté, lui, du côté des forces contre Dieu. Mais dans l'histoire de Moïse, le Nakash revêt différentes symboliques, à la fois image de mort, dans les morsures des serpents, quand le peuple se plaint contre Dieu, dans Nombre 26, mais aussi image de vie, le serpent de bronze sur la perche qui sauve les Israélites qui le regardent. Toujours un peu mystérieux cette histoire. Alors ça, c'est pour l'apparition des tanins et des nakash un peu plus concrets. Il arrive aussi que les auteurs bibliques utilisent ces mots-là comme un peu autrement, comme des images, des comparaisons et des métaphores, pour décrire des humains. L'armure de Goliath a comme des écailles, comparé à un monstre, à un serpent, carrément transformé un humain en Akash, le pharaon d'Égypte. Dans Ézéchiel, il est vu comme le grand monstre qui est dans le Nil. Le mot est utilisé aussi pour décrire des royaumes dans la période de l'exil à Babylone. Donc en bref, le motif du dragon, il peut avoir plusieurs significations. Il est parfois image de mort, parfois image de vie, parfois plus neutre, plus mystérieux. Mais l'important qu'on doit garder en tête, c'est que Dieu garde cette créature dans les limites de son plan. Que ce soit un animal qui soit décrit, l'adversaire, un événement extérieur, une personne ou un peuple qui sont désignés par les images et les symboles des créatures du chaos. Dieu les garde dans les limites de son plan. Et je voudrais vraiment arriver maintenant, pardon, j'ai été un peu vite sur mon PowerPoint, Et je voudrais arriver maintenant sur ce qu'on peut voir de l'action de Dieu face au chaos. Encore une fois, Dieu, par Christ et en Christ, est vainqueur sur le dragon. Parfois, notre monde est chamboulé et on n'y trouve plus d'ordre. Marion Muller-Collard a écrit un livre qui s'appelle « L'autre Dieu, la plainte, la menace et la grâce ». Elle y témoigne de son vécu de mère, qui voit impuissante son bébé aux mains des médecins parce que rien ne semble pouvoir le guérir. Elle témoigne aussi, par son vécu d'aumônière en hôpital, des récits de vie où la souffrance domine, sans qu'on puisse y trouver de raison, ce qu'on aimerait bien souvent faire. Elle parle alors du réconfort qui est tiré dans la lecture du livre de Job, dans des situations où la plainte, avec un grand P, si légitime, se fait trop intense. Job, après les discours et les questions de ses amis, finit par interroger lui aussi Dieu. Et en Job 38, les versets 8 à 11, Dieu lui répond « Mais qui a fermé, qui a bloqué la mer quand il serait jaillissant du grand abîme ? Moi, je lui ai donné les nuages pour vêtements. Je l'ai enveloppé dans un épais brouillard. J'ai imposé sur lui une limite en plaçant devant lui une porte barrée. Puis je lui ai dit « Tu iras jusqu'ici, tu n'avanceras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. » Dieu, c'est celui qui bloque la mer, le chaos, celui qui donne une limite. Dieu, c'est El Shaddai. La traduction courante de El Shaddai, c'est Dieu Tout-Puissant. Un jeu de mots hébreu permet aussi de le traduire comme « C'est Dieu dit, c'est assez ». Dieu, dans sa bonté et son amour pour nous, par grâce absolue, est capable de dire au chaos « c'est assez ». Il peut aussi nous dire à nous, au cœur de notre chaos, nous rejoindre et nous dire « c'est assez » pour nous permettre de nous décentrer, pour nous permettre de nous recentrer sur lui et sur son action dans nos vies et pour le monde. Avec cette dimension de Dieu qui dit « c'est assez », en se rappelant que tout à l'heure, on a dit que le chaos c'est souvent symbolisé par les fonds marins, mais que Dieu est à la fois maître de la création et celui qui pose des limites, celui qui dit « ça suffit ». J'imagine que vous avez déjà en tête une histoire de Jésus qui va synthétiser tout ça à lui tout seul. Dans Marc 4, versets 37 à 40, et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons tous mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi. » Autre possibilité de traduction, « Sois muselé, tiens-toi tranquille. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Dieu est celui qui est tout opposé au chaos, celui qui arrête l'insolence des flots pour garantir une terre ferme et habitable. Le chaos dans nos vies n'arrive pas pour une raison, c'est une conséquence systémique à bien des égards, de la grande catastrophe. Car Dieu n'est pas comptable face à nos doutes et nos manquements, mais dans sa grande bonté envers nous, il compte sur chacune de nos vies pour circonscrire avec lui le chaos. Et avant de terminer, je voudrais encore donner un petit témoignage personnel. À la fin de l'année scolaire dernière, j'ai été victime de plusieurs agressions verbales, mais agressions. L'auteur de ces agressions est revenu encore une fois le jour de la rentrée de septembre. Mon monde, préparé, ordonné, planifié, a été mis complètement sans dessus-dessous. Angoisse, peur, réponse post-traumatique à un événement qui venait secouer des racines très profondes, avec ses menaces, ses intimidations, avec des secousses secondaires qui ont touché mon sentiment de sécurité dans mon travail et dans ma vie personnelle. J'ai dû réfléchir et aller jusqu'à demander un arrêt de travail à mon médecin. À ce moment-là, je ne savais pas du tout combien de temps est-ce que ça pourrait durer, ni même si ça ne m'emmènerait pas vers un changement de voie. C'était très profondément bouleversant. La semaine qui a suivi cette nouvelle agression verbale a été extraordinairement pleine de Dieu, pleine de preuves de son amour dans ma vie. Le chaos était le plus total à l'extérieur. Et puis, pour le contexte, ça faisait plusieurs semaines que j'avais commencé à étudier le thème du dragon et du serpent, créature du chaos, en prévision de cette prédication. Il se trouve que cette semaine-là, en allant me promener avec mon chien, j'ai croisé plusieurs fois, à peu près au même endroit, sur le bord du chemin, un serpent, un petit serpent, bien ondulant, bien tête un petit peu, serpent. Alors, chaos dans ma tête, chaos sur le bord du chemin, beaucoup, ça faisait beaucoup. En fin de semaine, à la fin de cette semaine-là, qui a été chaotique pour le moins, une famille d'amis m'a rendu visite et on est allé se promener. Et comme j'avais vu plusieurs fois ce serpent sur le bord du chemin, j'ai dit aux enfants de faire gaffe parce qu'il risquait d'être là. Donc les enfants, ils ont commencé à fuir et à crier, à faire le grand tour. Et puis leur père s'est penché sur la bestiole. Et puis il a explosé de rire. C'était pas du tout un serpent. C'était une petite chambre à air. Il dit, il y a marqué Goodyear sur ton serpent. Alors, on peut y voir une bonne blague, hein, franchement. J'y ai vu, dans le faisceau des indices laissés par Dieu dans ce moment bien particulier, un signe que cette situation de chaos pouvait éventuellement se résoudre et faire pchit comme ça. Ça a pris du temps, avec Dieu, accompagné dans l'Église aussi, mais pour le moment, effectivement, la résolution de cette situation correspond à ce signe qui a été posé. J'ai pu depuis reprendre le travail en me sentant en paix au milieu de cette situation compliquée. Alors oui, il y aura des dragons. Oui, mais Dieu, par l'action de Christ, est vainqueur. Car c'est vrai que le grand dragon rouge de l'Apocalypse est toujours actif sur la terre. Alors que ce soit en Église, dans nos communautés ou face au chaos, dans nos vies plus personnelles, quelle réaction est-ce qu'on peut avoir? Comment est-ce qu'on va faire pour surmonter la peur? Comment est-ce qu'on prend courage? Comment est-ce qu'on retourne à Dieu après le doute, après les questions? Avec Moïse, Job, Jonas, les enseignements de Jésus, je propose qu'il faudra du courage, de la confiance, de la remise en question, de la prière, parfois laisser la communauté autour nous soutenir quand nous ne pouvons pas, et aussi accepter de laisser Dieu dire « ça suffit », même si c'est d'abord seulement un tout petit espace de paix au fond de notre cœur. Et puis gardons aussi avec nous la ferme conviction donnée dans Apocalypse, le dragon est vaincu. Si ces derniers soubresauts décrits dans la vision d'Apocalypse 12 nous atteignent tout de même, il est d'ores et déjà vaincu. Vaincu par le sang de l'agneau et par la parole des témoignages, dit le verset 11. Un dragon, si impressionnant, avec ses nombreuses têtes, vaincu par un agneau. Quel renversement, quelle image puissante. C'est l'agneau qui remporte la victoire. La victoire est remportée par Christ. C'est Christ, l'agneau, qui remporte la victoire sur le dragon, monstre du chaos et de la mort. Je voudrais terminer avec la conclusion du livre de Marion Muller-Collard, Notre Dieu, que je voudrais dire comme une prière. Seigneur, j'aimerais Être cette femme de foi, j'aimerais que nous soyons ces femmes et hommes de foi, enracinés dans la parole première d'un Dieu qui nous préfère à rien et nous invite avec lui à poser des limites au chaos. J'aimerais qu'on puisse prendre le relais du Shaddai dans nos errances intérieures et savoir dire à nos amertumes « ça suffit ». Rien n'est dû, tout est donné. Quoi qu'il arrive, réjouissons-nous que le soleil chaque matin se lève sur le monde. Respire, prends courage. Tant qu'il fait encore jour, travaille aux œuvres de celui qui a créé la vie. Amen.